Marcelin Plenet, qui est, selon vous, Manet, le peintre à la fois du déjeuner sur l'herbe et du déjeuner dans l'atelier, qui, à mon sens, sont deux toiles tout à fait complémentaires, c'est-à-dire familiales.
Écoutez, pour moi, Manet est certainement un des artistes les plus singuliers du 19e siècle. Certainement aussi un des artistes les plus difficiles à appréhender. Un de ceux qui a été le plus difficilement appréhendé, qui a soulevé le plus de malentendus au moment où il a travaillé, où il a montré ses premiers tableaux, et qui aujourd'hui, vraisemblablement, n'est toujours pas vu pour ce qu'il est. L'homme d'abord est extrêmement étrange. C'est un bourgeois, voire même un grand bourgeois, n'est-ce pas? Son père est une espèce de commis d'État. Sa mère est la fille d'un diplomate. C'est un grand bourgeois qui vit comme un grand bourgeois, c'est-à-dire qui est très très bien habillé, plutôt distingué, dont les propos sont relativement mesurés, qui n'a pas tellement l'air d'un artiste et qui ne tient pas tellement à avoir l'air d'un artiste. Et je pense, si vous voulez, je pense que il y a chez Manet, tel qu'il apparaît, un peu les contradictions que l'on peut voir dans ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie, c'est-à-dire la bourgeoisie n'est jamais vraiment ce dont elle a l'air. En général, c'est pire, évidemment. Chez Manet, c'est plutôt mieux. Chez Manet, c'est plutôt mieux, c'est-à-dire que c'est un homme qui, au fond, ne semble pas croire tellement au milieu et à la réalité du milieu dans lequel il est né et dans lequel il vit. Je dirais que, d'une certaine façon, le paradoxe de Manet, c'est qu'il ne parvient pas à croire au XIXe siècle et qu'il ne parvient plus non plus tout à fait à croire à ce qui le fascine, c'est-à-dire à son histoire, à l'histoire de l'art et aux artistes qui le fascinent. Il est dans un doute, il est dans une sorte de doute ontologique quant à son actualité et quant à son origine. Vous savez, Baudelaire disait Manet est marqué par le romantisme dès sa naissance. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça dans Manet. Il y a dans la biographie des choses très très étranges. Par exemple, en ce qui concerne son mariage. En ce qui concerne son mariage, vous savez que Manet ne se marie. Il est en ceci assez proche de Cézanne. D'une certaine façon, il cache sa liaison avec son professeur de piano à qui il fait un enfant, que d'ailleurs il ne reconnaîtra pas. Il cache sa liaison à son père et il ne se marie qu'après la mort de son père. D'ailleurs, vous me parliez du déjeuner sur l'herbe. Il y a une chose qui est à souligner, n'est-ce pas? C'est que le déjeuner sur l'herbe comme l'Olympia, eh bien, ce sont deux tableaux qui sont contemporains du mariage de Manet. Les deux grands nus les plus scandaleux et les plus spectaculaires de l'histoire de l'art au XIXe siècle sont contemporains du mariage du peintre et de la mort de son père. Je pense que c'est un point qu'on peut souligner. Donc il y a ce point de déséquilibre et il y a des tas d'autres. Il y a d'abord le drame constant dans la vie de Manet, n'est-ce pas? Il est toujours angoissé de l'accueil qu'on fait à ses œuvres, d'abord parce qu'il veut être un peintre reconnu, non pas académique, mais un peintre qui ne fasse pas scandale. Il ne comprend pas pourquoi il fait scandale. Il est très angoissé par cela, très déséquilibré par cela. Et il y a deux autres événements qui me semblent tout à fait spectaculaires. C'est d'une part la mort d'Alexandre dans l'atelier, n'est-ce pas? C'est-à-dire le petit modèle de Manet qui se peint dans son... qui se pend dans son atelier, ce qui fait que Manet va changer immédiatement d'atelier. Et enfin, il y a la mort de Manet qui est un peu celle de Rimbaud, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui meurt d'une phlébite, des suites d'une phlébite, d'une amputation et d'une gangrène. Donc, si vous voulez, il y a une vie qui a l'air d'être une vie de bourgeois, qui a l'air d'être une vie de bourgeois et qui, en fait, est une vie plutôt bouleversée et plutôt continuellement dramatique. Je pense qu'il faut, retenir cela. Georges Bataille dit « Il y a dans le caractère de Manet une sorte de fêlure, une mélancolie étouffante. » Et je pense que c'est cela un peu qui peut permettre de définir Manet et de définir la singularité de Manet que l'on ne voit pas tellement aujourd'hui, que l'on ne voit pas tellement aujourd'hui et que l'on pourrait reprendre, qu'on pourrait reprendre peut-être plus précisément à partir d'une toile, enfin, en tous les cas, bien sûr qu'il faut fixer sur l'Olympia, parce que c'est la toile qui fait scandale et qu'il faut fixer sur le Déjeuner sur l'herbe. D'abord parce que ce sont deux toiles qui ont une référence explicite à l'histoire de l'art, n'est-ce pas ? C'est-à-dire référence explicite à Titien et à ce que Manet pense être Giorgione, et qui est encore un Titien, d'ailleurs, d'une certaine façon, comme par ailleurs, d'ailleurs, le balcon se réfère à Goya, n'est-ce pas ? Il y a chez Manet, non pas quelque chose qui est de l'ordre du pastiche, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la reprise et du commentaire des grands moments de l'histoire de l'art et des grands tableaux, n'est-ce pas ? Il est bien évident qu'on peut considérer l'Olympia comme un commentaire, l'Olympia et le Déjeuner sur l'herbe comme un commentaire de Titien, c'est-à-dire qu'est-ce que serait Titien au XIXe siècle, et que l'on peut considérer le balcon comme un commentaire de Goya. Donc il y a cela, et il y a un autre tableau qui est également important dans ce contexte aussi, et qui est la musique aux Tuileries. Qui, à mon avis, est un grand tableau, et qui est un tableau qu'on devrait pouvoir réinterpréter, comme d'ailleurs une grande partie de Manet, à partir de Baudelaire, et peut-être à partir du léger malentendu qu'il y a constamment entre Baudelaire et Manet. Vous savez qu'il y a cette phrase très célèbre de Baudelaire qui dit « Nous sommes grands et poétiques avec nos cravates et nos bottines vernies ». Et il est bien évident que la musique aux Tuileries, ce sont les cravates, ce sont les bottines vernies, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie dans son costume, costume contemporain. Et là, il y a une chose qui vient commenter à la fois la musique aux Tuileries, qui vient commenter la phrase de Baudelaire, c'est la déclaration de Mallarmé, n'est-ce pas, qui dit de la musique aux Tuileries et des hommes qui sont dans la musique aux Tuileries, ils ont sur le chef quelque chose de sombre et de surnaturel. Eh bien, il me semble que Mallarmé dit là quelque chose de très, très précis sur Manet. Il y a dans l'œuvre de Manet, constamment, du commencement à la fin, quelque chose de sombre et de surnaturel. Manet traite le tissu et la croyance bourgeoise en la propriété, n'est-ce pas, d'où le nombre considérable des natures mortes, avec toutes les références d'ailleurs à la nature morte hollandaise. Manet traite la propriété bourgeoise et la croyance bourgeoise, la croyance de son époque, dans le bien, n'est-ce pas, dans la fortune, dans le bien, dans la réussite, dans la science. Il la traite d'une façon sombre et surnaturelle, c'est-à-dire qu'il la traite avec un point de vue que je dirais tout à fait métaphysique. Ce qu'il dit, en fait, ce que dit l'Olympia, n'est-ce pas, c'est que la chair est mortelle. N'est-ce pas ? Ce que dit Manet dans le balcon, l'admirable portrait de Berthe Morisot, n'est-ce pas ? C'est une espèce de considération absolument, non pas tragique d'ailleurs, stupéfaite de... du fait que ce monde ne tient à rien, n'est-ce pas ? Que la vérité ne saurait en aucun cas être de ce monde, mais qu'elle est de quelque chose qui est plus que ce monde, qui est de l'ordre du sombre et du surnaturel. Et je pense que c'est ça le scandale qu'a fait Manet, au fond. Il a présenté à la bourgeoisie l'image, une image tout à fait... tout à fait évidente de son univers, de son monde, mais il lui a présenté avec un regard qui dit la vérité de cet univers et la vérité de ce monde. Un regard, si vous voulez, métaphysique ou transcendant sur cet univers et sur ce monde. Et je pense que c'est là la grande qualité, la très très grande qualité de l'œuvre de Manet, qui fait, si vous voulez, que par exemple, eh bien, deux ans après l'Olympia et le Déjeuner sur l'herbe, vous avez quelque chose qui vient aussi jouer cela d'une certaine façon, c'est-à-dire vous avez ces deux étonnants tableaux qui sont les deux images du Christ dans l'œuvre de Manet, n'est-ce pas ? Le Christ aux anges qui se trouve à l'exposition et le Christ insulté qui ne s'y trouve pas, je crois, et qui date de deux ans après. Donc ces deux tableaux qu'on peut dire de référence gréco-latine, païenne, ou en tous les cas humaniste d'une certaine façon, n'est-ce pas, puisque la Vénus et le déjeuner sur l'herbe, c'est-à-dire le concert champêtre qu'on attribue à Giorgione et qui est Titien, et la Vénus de Titien sont des références à l'humanisme italien. Donc c'est une façon de revenir sur une certaine croyance de la société dans laquelle il vit et de la stupéfier dans son immédiateté, et ça, Bataille a très bien vu ça, de façon à en faire apparaître tout le caractère périssable dans un art qui précisément montre que la vérité pour Manet n'est pas de l'ordre du réalisme, quoi qu'il ait très bien vu Courbet, n'est-ce pas, n'est pas de l'ordre du réalisme, mais de ce qu'on pourrait appeler, peut-être d'une certaine façon, si on ne veut pas employer le mot de métaphysique, ce qu'on pourrait appeler le surnaturalisme.
Quel est l'enjeu pour Manet des deux déjeuners sur l'herbe? Pourquoi y avoir introduit l'office naturel qu'il n'a jamais reconnu?
Écoutez, je pense que pour Manet, comme pour tout grand artiste, l'œuvre est intimement liée à la biographie et joue intimement avec la biographie. Je ne saurais pas dire le mode de rapport que Manet entretient avec ce fils naturel qu'il n'a jamais reconnu et qui passe paradoxalement, n'est-ce pas, pour être le frère de sa femme, ce qui est une chose tout à fait folle et tout à fait étonnante. Je pense, si vous voulez, que lorsqu'un artiste se confronte, comme l'a fait Manet, très naturellement, sans arrière-pensée, comme la chose la plus allant le plus évidemment de soi, lorsqu'un artiste se confronte au front buté du monde, n'est-ce pas, et au mur du monde à l'intérieur duquel il vit, eh bien, il fait forcément entrer en jeu tout son tissu biographique, tout ce qu'il vit et tous les aspects de sa psychologie, si je puis dire. C'est-à-dire que toute la famille s'y trouve d'une certaine façon, obligatoirement. Ce qui me surprend, c'est moins ça, si vous voulez, c'est que peut-être pour moi, le plus grand tableau de Manet, c'est-à-dire celui où précisément cet aspect, cet aspect de négation, parce qu'il me semble que ce qui fait scandale dans l'œuvre de Manet, c'est que précisément Manet porte une négativité extrêmement forte, extrêmement violente et extrêmement forte, malgré lui d'ailleurs. Cet aspect de négation, eh bien, il parvient à le transcender peut-être dans un seul tableau, au fond, qui est peut-être son tableau le plus lyrique et qui est le portrait de Mallarmé. C'est-à-dire précisément au moment où, en face de lui, il n'a plus tellement une réalité, mais un effet de création. N'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, on entre dans un effet de réalisation métaphysique, artistique, qui est peut-être sans égal dans l'œuvre de Manet.